Théologie mystique, 23 avril 1985, Saint-Jeudard.
Nous allons continuer d'entrer dans le grand mystère de la prière du Fils bien-aimé. Je ne reprends pas, on a toujours envie de reprendre, parce que c'est quelque chose que nous devons creuser indéfiniment. Saisir par là les désirs les plus intimes du cœur de Jésus, ces désirs de Fils. Et par le fait même, la mission qu'il a reçue du Père. Je crois qu'il faut bien comprendre, ce sont les désirs du Fils qui s'incarnent dans une mission. Et cette mission est une mission sacerdotale. C'est pour ça que cette prière, c'est la prière du Fils bien-aimé, et on peut dire que c'est la prière sacerdotale. Et je crois qu'il faut dire en premier lieu que c'est la prière du Fils. Et je ne suis plus dans verset 11. Et je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde et moi je viens vers toi. Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous. Alors, voilà bien le désir personnel de Jésus, ayant reçu comme mission d'unir les hommes au Père et de faire d'eux des fils bien-aimés. Et c'est bien là où nous saisissons cette intention profonde de Jésus qui reçoit sa mission du Père, faire que les hommes soient des fils bien-aimés du Père. Puisque Jésus demande, Père Saint, garde-les dans ton nom, le nom du Père, c'est le Fils en tant qu'il est envoyé par le Père, garde-les dans ton nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous. Donc la relation du Fils bien-aimé à l'égard du Père, il faut que cette relation se retrouve dans le cœur de tous ceux que Jésus a portés dans son sacerdoce d'amour, qu'ils soient un comme nous, un dans cette relation de filiation. L'unité entre le Fils et le Père, c'est une unité de filiation. Il faut que nous soyons tous un dans cette même unité de filiation, qu'ils soient un comme nous. Oui, ce qui montre bien que la mission de Jésus consiste à faire de nous des fils bien-aimés. Et d'autre part, Jésus nous montre bien aussi qu'il a pleine conscience qu'il nous laisse dans le monde, lui quittant le monde. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je viens vers toi. Ce n'est pas un abandon de la part de Jésus, c'est pour ça qu'il y a cette prière qui nous enveloppe. Jésus est parfaitement conscient qu'il nous laisse dans le monde, alors qu'il va vers le Père. Donc il nous laisse dans toutes les luttes du monde, puisque le propre du monde, c'est justement ce qui s'oppose au Père. Le Père n'aime pas le monde, et celui qui aime le Père ne peut pas être dans le monde, parce que tout lutte contre la volonté du Père. Et lorsque j'étais avec eux, moi je l'ai gardé dans ton nom que tu m'as donné, le nom que tu m'as donné. comme fils bien-aimé. Puisque le nom de Jésus, c'est le fils bien-aimé. Et c'est dans ce nom qu'il nous garde. Donc c'est dans cet amour de prédilection qu'il nous garde. Lorsque j'étais avec eux, je les gardais dans ton nom que tu m'as donné. Et j'ai veillé, et aucun d'eux ne s'est perdu, hormis le fils de perdition, pour que l'Écriture s'accomplisse. Alors là, nous touchons un très grand mystère, le mystère de la prédestination, qui est exprimé ici de cette manière très particulière. Si vous regardez cela dans la lumière de ce qui est montré dans l'Apocalypse, que seul l'agneau immolé peut enlever les sceaux. Ce qui montre que Jésus est présent à la prédestination de chacun d'entre nous. Ce mystère de prédestination se fait à travers le cœur de Jésus et dans le cœur de Jésus, comme victime et comme prêtre. Et donc, la volonté du Père et la volonté du Fils sont une dans ce mystère de prédestination. Il n'y a pas dualité, il y a unité profonde entre le Père et le Fils. Et c'est peut-être même là où nous découvrons l'unité la plus profonde du Père et du Fils. Nous la découvrons d'une façon contemplative du fait que le Fils est tout entier tourné vers le Père et ne fait qu'un avec le Père. Mais nous la voyons aussi dans l'œuvre commune. Et l'œuvre commune, dans ce qu'elle a de plus ultime, c'est justement le mystère de la prédestination. Il n'y a pas deux prédestinations, la prédestination du Père et la prédestination du Fils. Il n'y a qu'une seule prédestination. C'est important pour le mystère de la grâce, vous voyez, qui est lié au mystère de la prédestination. Le Père et le Fils sont un dans le don de la grâce. Et donc, il ne peut pas y avoir une modalité particulière de la grâce par rapport au Père et par rapport au Fils. Ils sont, le mystère de la grâce est donné par le Père et par le Fils. Bien qu'il y ait une relation particulière que nous pouvons découvrir dans notre vie divine entre le Père et le Fils. Notre relation à l'égard du Père et notre relation à l'égard du Fils n'est pas identique. Elle est distincte. Et elle a le même fondement. Lorsque j'étais avec eux, moi, je les gardais dans ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé et aucun d'eux ne s'est perdu, hormis le fils de perdition. Ce qui montre la sollicitude merveilleuse de Jésus sur toutes ses brebis. Une sollicitude qui se comprend dans l'amour même qu'il a pour le Père. Puisque le Père lui a confié chacune des brebis. Jésus les porte toutes parce qu'elles lui sont confiées, elles lui sont données. Ça fait partie de la sollicitude du Fils bien-aimé du Père. Et il nous aime et il a cette sollicitude vis-à-vis de nous parce que le Père lui a confié ses brebis. Et alors, l'ombre présente à cette sollicitude le fils de perdition, hormis le fils de perdition, pour que l'Écriture s'accomplisse. Alors, quelle chose mystérieuse, hein ! Comme si Jésus se mettait en référence à l'Écriture. Comme si, par rapport à Judas, Jésus mettait son regard en référence avec l'Écriture. C'est ce qu'il nous est dit. Hormis le fils de perdition, pour que l'Écriture s'accomplisse. Jésus veut que l'Écriture s'accomplisse. Or l'Écriture, elle provient du Père et du Fils, par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui est l'auteur principal de l'Écriture. C'est l'Esprit Saint donc qui provient du Père et du Fils. C'est donc le même vouloir. Alors comment se fait-il que Jésus puisse dire ça ? Est-ce que là nous trouvons le hiatus qui existe entre le Fils bien-aimé du Père qui ne fait qu'un avec le Père et la mission sacerdotale du Christ? La mission sacerdotale du Christ, c'est son âme humaine. Non pas ma volonté, mais la tienne. Alors, est-ce que nous pouvons faire ici le même discernement que lorsque Jésus, à l'agonie, demande que le calice s'éloigne, mais immédiatement en disant « non pas ma volonté, mais la tienne ». Il a exprimé quand même un désir que ce calice s'éloigne. Ici, nous voyons autre chose. Ce n'est pas un désir que Jésus exprime, c'est une volonté du Père. Comme si Jésus s'en remettait pleinement et totalement au Père par rapport à ce mystère de la prédestination. Parce que c'est bien ce qui nous est montré ici. Hormis le Fils de perdition, pour que l'Écriture s'accomplisse. L'Écriture, c'est l'œuvre du Père, c'est l'œuvre du Fils. Jésus, comme homme, comme prêtre, peut donc montrer qu'il est totalement soumis au bon plaisir du Père. Comme à l'agonie, mais de deux manières totalement différentes. Et c'est peut-être ces deux manières qu'on devrait essayer d'expliquer pour comprendre ce qu'il y a dans le cœur de Jésus relativement à cette volonté du Père. Je crois que dans l'agonie, essayons d'expliquer, hein, on touche un mystère, c'est vrai, un mystère très profond là. Je crois qu'à l'agonie, on peut dire que Jésus demande que sa mère soit épargnée. C'est de cette manière, je crois, qu'on doit expliquer la prière de l'agonie. Que ce calice s'éloigne. Le calice, c'est la manière dont Dieu, dont le Père veut que s'accomplisse le mystère de la croix. Et le Père veut que le mystère de la croix s'accomplisse de cette manière, que la croix s'achève en Marie. Que Marie vive le mystère de la compassion. Et donc, on peut dire en toute vérité que la croix s'achève en Marie. Et Jésus, dans son cœur d'homme, demande que ce calice soit écarté. Ce qui est le plus dur pour le Christ, c'est d'être cause de souffrance pour sa mère. Surtout qu'il sait que son sacrifice suffit à tout. Et donc, ce n'est pas la peine qu'il y ait une souffrance nouvelle. Si son sacrifice ne suffisait pas, alors il comprendrait qu'il y ait cette coopération. Mais comme son sacrifice suffit, il n'y a pas besoin de cette coopération. Et donc il demande que le calice s'éloigne. Et le Père veut que le calice soit bu jusqu'au bout. C'est-à-dire que Jésus accepte d'être source de souffrance pour sa mère et pour l'Église, et donc pour chacun d'entre nous. C'est toujours très important de se rappeler ça, que Jésus a prié pour que la croix nous soit épargnée, et que le Père a voulu que nous soyons liés à la croix du Christ. Jésus l'a voulu, hypothétiquement, si tel était le bon plaisir du Père. Mais il l'a demandé quand même, parce qu'il s'est mis de notre côté. Jésus se met toujours du côté de l'homme. Et la sagesse éternelle veut entraîner l'homme dans un surcroît de souffrance pour que l'amour soit plus donné. Parce que si Marie n'avait pas coopéré à la croix, si l'Église n'avait pas coopéré à la croix, Marie serait seulement sauvée, elle serait la petite enfant du Père, est la petite enfant du cœur de Jésus, mais elle ne serait pas l'épouse. C'est pour qu'elle soit épouse, et pour qu'elle soit par le fait même, en étant épouse, elle soit celle qui achève ce qui manque à la passion du Christ, c'est-à-dire une surabondance d'amour. C'est donc dans l'ordre de la surabondance d'amour. Ici, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais il y a quelque chose d'analogue. Hormis le fils de perdition, il s'agit de la justice du Père. Oui, c'est la justice et la miséricorde du Père. Est-ce que ce n'est pas ça qu'il faudrait essayer de comprendre ? Dans l'agonie, c'est la miséricorde du Père. Et ici, c'est la justice. Dans l'agonie, c'est la miséricorde du Père. C'est Jésus demande que cette miséricorde n'entraîne pas sa propre mère et avec elle l'Église dans l'exigence de la croix. Et ici, ce n'est pas une demande, c'est une constatation par rapport à la justice. Jésus ne peut pas aller contre la justice, tandis qu'il peut demander quelque chose qui mette Marie, mette l'Église dans un en-deçà de la souffrance. Où ça aille moins loin. Tandis que dans l'ordre de la justice, il ne peut pas. La justice s'impose. Et c'est, je crois, pourquoi il souligne ce point de vue-là. La justice du Père doit s'accomplir à l'égard de Judas. Et la justice du Père, c'est que celui qui s'est opposé à son fils bien-aimé ne puisse pas être uni éternellement à son fils bien-aimé. Jésus, lui, il a pardonné. Je ne dis pas que le Père n'a pas pardonné, puisque les deux se tiennent. Mais il faut qu'il y ait comme quelque chose de différent, l'attitude du Fils et l'attitude du Père à l'égard de Judas. Est-ce que ce n'est pas ça qui nous est révélé ici? Et Jésus qui respecte cette justice du Père. Et cette justice du Père, elle nous est bien montrée pour que l'Écriture s'accomplisse. Et Jésus respecte cette justice du Père. Tandis que lorsqu'il s'agissait de la prière d'agonie, Jésus pouvait exprimer au Père un de ses désirs, parce que c'était à l'intérieur de la miséricorde. La justice a quelque chose d'implacable, et c'est exprimé par le fait même pour que l'Écriture s'accomplisse. Ça, c'est le côté implacable de la justice. Tandis que le côté de la miséricorde a toujours du plus et du moins. Et donc, on peut intervenir dans l'ordre de la justice, et on peut prier le Père. Tandis que la justice, on la respecte. Je crois que c'est cela qui nous est montré ici, pour que l'Écriture s'accomplisse. Mais maintenant, je viens vers toi, et je parle aussi, et je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient la joie, la mienne, dans sa plénitude en eux-mêmes. Jésus est tout entier tourné vers le Père, le vado ad patrem, je viens vers toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient la joie, la mienne, dans sa plénitude en eux-mêmes. En partant, en allant vers le Père, Jésus veut nous communiquer la plénitude de sa joie. C'est-à-dire que Jésus veut rester présent au milieu de nous. Il ne peut nous communiquer sa plénitude de sa joie qu'en restant présent au milieu de nous. C'est impossible autrement. La joie réclame la présence. Chaque fois qu'on est en face d'une absence, d'une séparation, il n'y peut plus y avoir de joie. Il y a une tristesse. Et toute tristesse provient d'une séparation. Tandis qu'au contraire, toute présence vécue donne la joie. Et Jésus veut que cette joie soit en plénitude, dans sa plénitude en eux-mêmes. Et donc il veut que la présence au milieu de nous soit une présence plénière. Il est obligé de nous quitter et il veut rester présent. Je crois qu'on peut considérer là tout le mystère de l'Eucharistie. Le mystère de l'Eucharistie, c'est pour qu'il y ait cette plénitude de joie. La plénitude de joie que le Fils connaît parce qu'il est auprès du Père. Si le Fils est auprès du Père, s'il est dans ce retour vers le Père, s'il vit pleinement l'attraction du Père, le Fils connaît une plénitude de joie parce qu'il connaît une plénitude de présence. Et il veut que cette plénitude de joie qu'il connaît au plus intime de son cœur nous soit donnée. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Alors, cette présence, elle est donnée par l'Eucharistie, elle est donnée par la parole du Christ. Et c'est vrai, c'est la double manière dont le Christ est présent au milieu de nous. Présent substantiellement d'une façon cachée par l'Eucharistie, présent intentionnellement mais d'une intentionnalité divine qui implique donc quelque chose de substantiel par sa parole. C'est la lumière du Christ qui nous est donnée. Ce n'est pas seulement une parole, hein, comme on peut donner une parole humaine, c'est une parole divine ici. Il faut la comprendre justement comme une parole divine. Moi, je leur ai donné ta parole. C'est donc la parole du Père. Et cette parole a quelque chose de substantiel. Donc elle implique une présence. La parole du Père, quand elle nous est donnée, réalise une présence, comme l'Eucharistie réalise une présence. Et c'est pour ça que les Pères de l'Église ont toujours mis le parallèle entre la parole du Père et l'Eucharistie, parce que toutes deux réalisent une présence et donc donnent la joie. Et le monde les a pris en haine. Jésus nous quitte sachant cette haine du monde. Alors comprenons bien cette haine du monde. Le monde, il est en nous. Il n'est pas en dehors de nous, il est en nous, le monde. Le monde, c'est tout ce qui est sous la mouvance du démon. Le monde, c'est les trois concupiscences. Si nous nous laissons aller aux trois concupiscences, il y a une haine contre Jésus. Tout ce qui est sous la mouvance du démon est dans une attitude de haine implacable à l'égard de Jésus. La haine exprime toujours la lutte dans ce qu'elle a d'ultime. C'est l'amour et la haine. Et la haine tue tout amour. Parce qu'il peut y avoir d'autres tentations de jalousie, d'envie. Ça ne tue pas tout l'amour. La seule chose qui tue tout l'amour, c'est la haine. Il ne s'agit pas ici de la haine passionnelle, vous comprenez bien. Il s'agit d'une haine volontaire. Et la haine volontaire, c'est l'opposition la plus radicale à la volonté d'aimer. L'amour spirituel implique la volonté d'aimer, et la haine volontaire, c'est justement ce désir qu'il n'y ait plus aucun amour. C'est la destruction de l'amour, et donc c'est la lutte dans son paroxysme. La lutte dans son paroxysme, c'est la haine. Et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne sont pas du monde. Alors ça, c'est aussi très important à bien souligner. La seule raison pour laquelle le monde nous hait, c'est parce que nous ne sommes pas du monde et que le monde ne peut accepter que ce qui est de lui. Et ce qui est vrai du monde est vrai du démon, puisque le monde, là, est sous la mouvance du démon. Et ceci est vrai de tout orgueilleux. L'orgueil rend intolérable tout ce qui n'est pas de nous. Parce que tout ce qui n'est pas de nous ne provient pas de nous, et donc c'est quelque chose qui nous met dans les... qui exige, si on le reconnaît, nous mettre dans l'humilité. Alors dans l'orgueil, on veut dominer. Et c'est ce côté implacable de l'orgueil qui fait qu'on n'accepte pas quelque chose qui ne vient pas de nous. On n'accepte que ce qui vient de nous. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Si on vient du Christ, si on est du Christ, si on est dépendant du Christ, on ne peut pas être dépendant du monde. Et donc le monde nous est. C'est la lutte implacable. Il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de zone neutre. Il n'y a pas d'indifférence. Est non non. On comprend très bien. Et Jésus veut montrer ici que la lutte est implacable et que la lutte ira jusqu'au bout. Parce que le propre de la haine, c'est justement d'aller jusqu'au bout, comme l'amour. C'est toujours quelque chose qui nous pousse jusqu'au bout. Et donc, c'est nous montrer que la haine du monde à l'égard de ceux qui sont pris par Jésus et qui veulent être les disciples de Jésus, c'est une lutte implacable. Vous ne pouvez pas dire, au bout d'un an, deux ans, je serai délivré de la lutte. Non. Plus vous avancerez, plus la lutte sera forte. C'est pas très drôle comme prophétie, mais c'est comme ça. Hein. Parce que plus la lutte sera intériorisée, plus la lutte sera subtile. Au début, la lutte est assez grosse, et puis progressivement, la lutte devient de plus en plus subtile. Elle devient en opposition vis-à-vis des vertus théologales. Alors ça, c'est la lutte dans ce qu'elle a d'ultime. Le démon va jusque-là. Le démon ne peut pas s'opposer directement aux vertus théologales, mais le démon peut s'opposer à la nourriture des vertus théologales. Il peut faire que la nourriture des vertus théologales soit de fait corrompue. Il peut ainsi donner son venin à ce que représente la nourriture des vertus théologales. Or, vous savez bien, la nourriture des vertus théologales, c'est la parole de Dieu. C'est l'Eucharistie, c'est la volonté du Père. Toujours les trois nourritures. Et vis-à-vis de ces trois nourritures, le démon peut les falsifier. Il peut faire que la parole de Dieu ne soit plus reçue comme parole de Dieu, alors on ne regarde plus que le conditionnement de cette parole. Il peut faire que l'Eucharistie ne soit plus reçue directement de Jésus comme le pain authentique, comme le corps et le sang de Jésus, mais que de fait on commence à douter. En comprenant que c'est trop dur, en disant que c'est trop dur, et en s'opposant à ce mystère dans toute sa limpidité, ce n'est plus une présence réelle. Les tentations sont toujours là autour. Et vis-à-vis de la volonté du Père, alors là on sait bien. Toutes les tentations qui sont là pour empêcher de découvrir la volonté du Père. Et considérer que l'accomplissement de la volonté du Père, c'est ce qu'il y a de plus grand. Rien n'est aussi grand qu'accomplir la volonté du Père. Alors, moi, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Donc Jésus annonce la lutte implacable jusqu'au bout. Parce que tout le temps, nous serons pris par Jésus et Jésus nous sortira du monde pour nous mettre dans l'unité du mystère de la Très Sainte Trinité. Je ne prie pas pour que tu les enlèves du monde, mais pour que tu les gardes du monde. Ceci, c'est très important pour comprendre le mystère de la prédestination. Être dans le monde ou être retiré du monde, ça n'a pas une importance énorme. Ça ne tombe pas sous la volonté de Dieu. Ce qui tombe sur la volonté de Dieu, c'est que nous soyons fidèles. Je ne prie pas pour que tu les enlèves du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Voilà la fidélité. Et Jésus prie pour la fidélité. Vous voyez, on est prédestiné à cela. On est prédestiné à être enfant de Dieu. On ne peut pas dire qu'on est prédestiné à être ermite. Le jour où vous mettez la solitude comme un absolu, vous n'êtes plus dans la volonté du Père. Je regrette. C'est une séduction. Une séduction très spirituelle, magnifique. Mais c'est une séduction. On ne peut se conformer à la volonté du Père que dans la mesure même où on cherche la volonté du Père. Et quand on veut à tout prix cette volonté du Père, c'est cette volonté du Père qu'on doit chercher à travers tout. La fidélité à accomplir la volonté du Père. Mais les moyens, c'est la solitude, c'est la vie régulière, c'est une vie apostolique, ce sont les moyens voulus par Dieu. Mais ces moyens ne sont pas directement voulus pour eux-mêmes. Ils sont voulus pour que nous puissions aimer plus. Et c'est cela qui fait partie directement de la prédestination. Les prédestinés à être des fils bien-aimés du Père. Je ne prie pas pour que tu les enlèves du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. C'est tellement important, ça. Jésus ne prie pas pour que nous soyons hors du monde, mais pour que nous soyons fidèles à travers le monde. Et quelquefois, Dieu nous met exprès assis sur le trône de Satan, d'autant plus pour que nous soyons pas vie, que nous soyons gardés et que nous ne laissions pas prendre par tout ce qui est conséquent. Que nous laissions uniquement dirigés par ce qui est essentiel, par ce qui est premier. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Vous voyez l'insistance de Jésus, et en même temps l'insistance montrer l'aspect relatif d'être retiré du monde ou pas retiré du monde. Ça c'est tout le grand mystère de l'Église. C'est tout le grand mystère de l'Église. Le grand mystère de l'Église, c'est on n'est plus du monde, on doit être comme des étrangers dans le monde, comme dit saint Paul. Et en même temps on n'est pas séparé du monde. Mais en même temps, on doit être ceux qui sont sauvés. Ceux qui vivent pleinement du mystère de la croix. Si on n'est pas dans le monde, on n'est pas crucifié. C'est pas possible d'être crucifié. Si Jésus avait mené une vie d'ermite, il n'aurait pas connu la crucifixion. S'il avait été retiré du monde, n'étant pas du monde, il n'aurait pas connu la croix. Si l'Église demande aux apôtres d'être dans le monde, c'est pour qu'ils soient crucifiés. Parce que Dieu leur demande d'avoir ce sens du prochain, ce sens de cette responsabilité des pécheurs. Ils doivent les porter. Je ne prie pas pour que tu les enlèves du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Il faut de temps en temps se dire ça, parce que c'est important pour nous de comprendre ça, et de le comprendre concrètement dans notre vie, surtout quand vous avez des nostalgies terribles de vie d'ermite. Très très beau ces nostalgies, aller un mois, deux mois à Montmorin, c'est très très bien, et d'autres restent ici pendant ce temps-là. Ce n'est pas un absolu d'aller à Montmorin. L'absolu, c'est de faire pleinement et totalement la volonté du Père. C'est très bien qu'on en ait le désir, qu'on ait le désir d'être un tout petit peu à l'ombre de ce que représente la multitude. C'est très très bien qu'on ait... Mais il faut faire attention, c'est pour le vol de l'aigle et non pas pour le ronronnement du chat. Auprès du feu, il ne faut pas dire à Montmorin, moi je serai tranquille, là je n'aurai plus frère un tel qui sera là. et qui sera là pour exiger de moi de faire la cuisine, exiger de moi de toucher les écumes, et ainsi de suite. Là, moi, je serai tranquille. Si on fait ça, vous voyez, la solitude devient un refuge. Et c'est très mauvais, ce n'est plus la volonté du Père. Si Dieu nous met en dehors du monde momentanément, c'est pour croître dans l'amour. C'est pour aller plus loin dans l'amour. C'est pour vivre plus profondément de l'amour. Et c'est une exigence profonde, hein, d'utiliser ce temps, non pas du tout pour mieux se connaître, parce qu'on est en petit nombre, c'est pour mieux aimer le Père et la volonté du Père. Je ne prie pas pour que tu les enlèves du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les dans la vérité. On ne peut pas être consacré dans la vérité si on est du monde. Notre grande séparation du monde, c'est Jésus qui le souligne ici, notre grande séparation du monde, c'est d'être consacré dans la vérité. Ça, c'est la grande séparation. La séparation radicale. Si nous cherchons le monde, si nous cherchons la vérité, eh bien nous sommes, et que nous voulons être consacrés dans la vérité, nous sommes en dehors du monde. Le monde ne cherche pas la vérité. Que le monde est mené par le démon et que le démon ne cherche pas la vérité. Consacre-les dans la vérité, ta parole à toi est vérité. Être consacré dans la vérité, c'est donc être caché dans la parole du Christ, dans la parole du Père. C'est d'être enveloppé de cette parole, c'est de se référer toujours à cette parole. C'est de considérer que cette parole, c'est notre lumière au niveau contemplatif, notre lumière au niveau pratique. On se réfère toujours à la parole de Dieu. Et on doit se référer tout le temps à la parole de Dieu. Consacre-les dans la vérité, ta parole à toi est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés en vérité. On doit accepter d'être dans le monde comme des envoyés, pas comme des installés, mais comme des envoyés, donc comme ceux qui passent, comme ceux qui ne s'enracinent pas, toujours comme des envoyés et donc comme des étrangers. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. La mission du Fils et la mission de l'Église est la même. La mission de l'Église et notre mission à nous est la même. Nous sommes tous des envoyés par le Père, par Jésus, dans le monde. Et quand on sait qu'on est dans le monde comme envoyé, on n'est pas du monde. Parce que, justement, on est de Dieu, comme envoyé de Dieu. Vous voyez, la grande manière, hein, la grande manière de ne pas se laisser contaminer par le monde, c'est toujours le danger. Spiritualité du contact. On voit très bien ce que c'est. Parce qu'on est envoyé pour les aider, donc on va s'adapter le plus qu'on peut. Le contact. Alors au bout d'un certain temps, on se revêt de la même couleur que le monde dans lequel on est. Pourquoi ? Parce que justement, on n'a pas compris qu'on était envoyé dans le monde par Jésus, par le Père. Et qu'on était consacré dans la vérité. Et donc on ne pouvait pas faire certains mélanges, certains compromis, c'est impossible. On ne serait plus un envoyé. Et donc si on est un envoyé, on ne peut plus être du monde. Un envoyé du Père, un envoyé de Jésus. C'est ça qu'on doit garder dans son cœur, c'est ça la vie apostolique. Hein, c'est d'être envoyé par le Père dans le monde. Sachant qu'on n'est pas du monde et qu'on y est comme envoyé, et qu'on y est ça, en étant consacré dans la vérité. Et que cette consécration, elle se fait par Jésus. Moi aussi, je les ai envoyés dans le monde, et par eux, et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés. consacré en vérité. Jésus se consacre pour nous. Oui, mystère du sacerdoce de Jésus. Jésus se consacre en vérité pour nous. Et il est pour nous le lieu dans lequel nous devons être consacrés. Il est pour nous le lieu dans lequel nous pouvons vivre. C'est Jésus qui nous accueille dans sa propre offrande. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés en vérité. La même consécration qui passe par le Christ, mais la même consécration. Qu'est-ce que ça représente pour Jésus d'être consacré dans la vérité ? Il est lié, uni au Verbe de Dieu, qui est la lumière. Il est lié volontairement au Verbe de Dieu, amoureusement au Verbe de Dieu. Et sa consécration dans la vérité, c'est justement de comprendre la volonté du Père sur lui. Vérité pratique de l'envoyer. L'envoyer est vrai dans la mesure où il conforme sa volonté à la volonté de celui qui l'envoie. Alors à ce moment-là, c'est la vérité pratique, c'est la vérité plénière, c'est cette vérité-là dont parle Jésus. Il y a aussi cette vérité contemplative qui fait qu'on contemple celui qui nous a envoyé et on l'aime. Je crois que c'est cela qui nous est montré en premier lieu. Pour eux, je me consacre moi-même afin qu'ils soient eux aussi consacrés en vérité. Jésus se consacre pour nous. Il accomplit la volonté du Père pour nous. Et il veut l'accomplir jusqu'au bout pour nous. Et c'est en ce sens-là qu'il se consacre. Et c'est en ce sens-là qu'il peut être pour nous le lieu de l'accueil et de la rencontre. Pour eux, je me consacre moi aussi, afin qu'ils soient eux aussi consacrés en vérité. Cette consécration en vérité, il faut qu'on y pense souvent, ça. C'est cette consécration en vérité qui nous fait de nous des êtres lumineux, des êtres de lumière. Parce que la vérité, c'est la lumière. Alors être consacré en vérité, c'est être consacré dans cette lumière divine, c'est-à-dire dans le Verbe de Dieu. Et laisser le Verbe de Dieu nous prendre et nous saisir de la manière telle qu'il n'y ait plus le moindre ombrage. Qu'on soit vraiment entièrement ordonné à. Qu'on soit lié à ce mystère d'amour et à ce mystère de lumière. Consacré dans la vérité, pour l'âme du Christ, c'est vivre dans la lumière du Verbe. Et pour nous, être consacré dans la vérité, c'est d'être lié au Verbe de Dieu et ne plus être qu'un avec le Verbe de Dieu. Pour eux, je me consacre moi-même afin qu'ils soient eux aussi consacrés en vérité. Ce n'est pas pour cela seulement que je prie. Après avoir vu l'intensité de la prière de Jésus. Et vous voyez que l'intensité de la prière de Jésus par rapport au mystère de l'Église, c'est cette consécration dans la vérité. Cette consécration dans la vérité qui donne le poids à cette prière, qui donne son caractère propre. Ça n'exclut pas l'amour. Et pour que l'amour existe, il faut cette consécration en vérité. S'il n'y a pas cette consécration en vérité, l'amour ne peut pas se communiquer pleinement. Ce n'est pas pour cela seulement que je prie, mais aussi pour ceux qui, par leur parole, croient en moi. Alors ça, c'est aussi très grand de voir l'extension de cette prière qui s'étend à tous ceux qui sont touchés par la parole des apôtres. Et ceci continue indéfiniment. Oui, c'est le grand mystère de la tradition. C'est le grand mystère de la vie de l'Église. Et tout ça, dans le regard du Christ, ça ne fait qu'un. Dans le regard du Fils bien-aimé. Mais aussi pour ceux qui, par leur parole, croient en moi, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient en nous, eux aussi, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Le témoignage que nous donnons, que Jésus est vraiment le Fils bien-aimé envoyé par le Père, c'est de vivre cette union si étroite dans le mystère de la parole, donc dans le mystère de cette consécration. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient en nous, eux aussi, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Que nous vivions de l'intimité du Fils à l'égard du Père, que nous vivions de cette simplicité et de cette intensité.